Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Cube Radio.
Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, Fred Poirier, K.R., Kevin Raphaël.
C'est Noël.
Ben, c'est pas encore Noël, là, c'est dans une couple de jours.
Mais là, on est quoi? On est le 22?
On est le 21.
Mais non, mais là, on est le 22 quand ça sort le podcast. Là, le 22, c'est vendredi.
Il sort le jeudi, notre podcast.
Non, moi, je fais pas de party de Noël cette année, moi.
Comment ça, tu fais pas de party de Noël?
Ben, j'ai décidé de prendre un break.
Un break de party de Noël?
Ouais, je vais juste jouer à Fortnite. Je vais juste relaxer.
Mais tu vois pas, genre, ta famille?
Mais je vais voir la petite, petite famille, là. Mais je vais.
Ben, je veux dire, tes parents.
Ouais, ça, les parents, sœurs, mais je. Pas la. Les grosses familles, non. Non, pas cette année. Cette année, c'est Fortnite, chiller, relaxer.
Tu vas voir ta famille de Fortnite.
Mais non, mais c'est parce que là, là. C'est con.
C'est qui ta famille de Fortnite? Ben, Manu.
Il y en a plein, Manu. P.O. Joseph, Mathieu Joseph, Nikita Sherbak, Mété.
Tu joues encore à Fortnite avec Mété et ben oui, Sherbak?
Moi, je respecte mes boys, là.
Les gars sont passés à Montréal en coup de vent. Mais t'as cligné des yeux, t'es hommes manqués. Mais non, tu joues encore à Fortnite avec.
Parce que l'affaire, c'est que quand ils jouent, sont connectés, ils peuvent voir quand je me connecte. Fait que quand, okay, mettons, s'ils font une demande de jouer,
ouais.
Mais là, moi, je me sens disrespectful de dire non, là. Donc des fois, je me retrouve dans des groupes Fortnite avec, mettons, Sherbak, puis d'autres, ouais, Russes que j'ai jamais vu ou entendu parler. Juste le extra qui fill un hole.
Man, tu sais, ça peut juste mal finir, ça.
Non.
À un moment donné, il y a une investigation à quelque part qui va se faire. Puis tu vas être sur une liste que t'aurais pas dû te retrouver.
Ils vont être comme, comment t'es collègues? Je sais pas c'est qui, man. Je joue une fois à Fortnite avec eux, man.
Oh man, que c'est drôle. Hey, on a, oubliez pas de vous abonner à notre Keybook, une belle entrevue avec Lou O'Farrell qu'on vous a.
Vraiment bonne entrevue.
Donné. Ouais, exactement. Donc, allez voir ça. Du côté, sans restriction, tu prends un congé, je pense.
Ouais, on prend deux semaines off pour le temps des fêtes au niveau des entrevues, là, des podcasts un à un. Ouais. Ou sans restriction. Mais on garde le podcast de football, donc il va sortir comme à chaque semaine. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font des paris sportifs suite à nos calls. So, on va vous garder ça chaque semaine jusqu'à la fin, jusqu'au Super Bowl.
Parfait, il vous reste quelques jours pour vous procurer le livre de Butch Bouchard sur la vie et la carrière, évidemment, de l'ancien capitaine du Canadien à quelques jours de Noël pour ceux qui célèbrent Noël cette année.
Non, mais je vais célébrer Noël, je donne des cadeaux à tout le monde.
Je vais aller dans chaque maison un par un,
mais comme le gros party à 45 dans le 4,5, je peux pas. Pas cette année.
Tu fais ça encore? C'est-tu à Noël au jour de l'an que ta grand-mère fait de la soupe?
Ben oui, je venais t'apporter, man.
Ben, tu m'as oublié l'année passée.
Non, mais là, t'es sur la liste. Parce que là, j'ai fait une liste. Là, j'ai fait une liste. Là,
t'as une liste de Fortnite. Mais une liste de soupe.
Parce que l'affaire, là, OK, c'est qu'avant, il y avait juste la liste de la famille, genre, OK?
Ouais.
Mais là, il y a trop de blancs qui veulent la soupe. Fait que là, ils m'ont détaché de la liste de famille. Fait que là, j'ai plus de temps. Là, j'ai plus besoin d'aller chez chaque cousin, cousine, faire ma tournée qui prend 4 heures de temps. Là, je peux juste me concentrer sur mes amis.
C'est quoi déjà le nom de la soupe?
La soupe Jumu.
Jumu. Yeah. Et tu sais ce que t'avais fait il y a 2 ans? Hein?
Je l'ai mis sur ton char.
Tu m'avais envoyé un texto en disant « Je t'ai laissé la soupe, Puis là, moi, j'ouvre la porte, il n'y a absolument rien. Là, je regarde mon char, il y a un chaudron dans un sac sur le dessus de mon char.
Mais j'avais pas le temps parce que il y a tellement de monde qu'il faut que je me dépêche.
J'ai dit, man, même le Père Noël prenait le temps, c'est-tu, de rentrer les cadeaux, lui laisse la soupe. La soupe Jumu, c'est-tu, sur le dessus du char.
Il n'y a pas le temps, man. Gotta move. Soupe Jumu, c'est gotta move.
On avait, Kev, un concours pour les billets de la WWE à Laval. Mm-hmm. Et puis, ben, on a un gagnant. Mm-hmm. Alors, c'est Francis Yabatadlia qui a remporté la paire de billets.
Pour
le 28 décembre du côté de la Place Belle. Alors, Francis, je vais entrer en communication avec toi afin d'avoir tes coordonnées puis t'envoyer les billets. Aujourd'hui, Kev, on a un gros show.
Pronto, ouais. Patrice, sono un gagnante.
Là, tu prends pour acquis qu'il est italien, hein?
Oui.
Francis, il a battu de l'IA, mais peut-être qu'il n'est pas italien, là.
Shit tough.
Peut-être qu'il parle pas un mot italien. Peut-être que ses arrière-grands-parents étaient italiens.
Ben yo, Denise Duolingo, man, je sais pas, man.
Ben je sais pas. Mais on t'aime pareil, Francis.
Ben non. Ah, c'est Francis, italien, j'ai dit pas. Patrice.
Non, c'est Francis.
Pronto, Francis, sono un gagnante.
Alors, ça veut dire quoi si, mettons, Francis parle pas italien?
Salut, Francis, tu es le gagnant.
Ah, c'est vrai, parce que tu prends des cours d'italien, J'ai sneaké ça l'autre fois.
Yo, je suis rendu fort, là, comme...
Mais je veux savoir pourquoi.
Pour aucune bonne raison. Kobe Bryant...
Ah, c'est ça, aucune.
Kobe Bryant parlait italien, j'ai dit, moi aussi, je peux.
Ah, c'est correct.
Ouais.
Ben, écoute, on a un gros show aujourd'hui, spécial, québécois, comme on vous fait une fois par année. Et on va avoir en entrevue Mike Bailey, de TNA, j'allais dire d'Impact, mais c'est maintenant de TNA. On va avoir également Evil Uno de AEW, entrevue qui a été tournée avant les shows de Montréal. Et on va avoir Daddy Magic, Papa Magie, Matt Menard, entrevue qui, au contraire, a été tournée après les shows de Montréal.
Si vous aimez vraiment la lutte, là, c'est trois entrevues que vous allez adorer, trois entrevues complètement différentes. Mais vous allez adorer parce que c'est vraiment de l'insight dans le monde de la lutte, là. T'sais, les trois gars, ils ont pas la langue dans leur poche, puis je trouve ça beau de les écouter parler.
Alors, on s'en va tout de suite avec la première de ces trois entrevues, Speedball Mike Bailey. Alors, on a la chance d'avoir une fois de plus sur les Antipodes. Je pense que c'est un des invités qu'on a reçu le plus souvent entre les Antipodes et Keybook sur notre Patreon. Nul autre que le Québécois Mike Bailey. Comment ça va, Mike?
Ça va super, merci beaucoup. Et vous, comment ça va?
Ben, ça va super bien. Moi, j'ajouterais un des plus pertinents à chaque fois qu'on est sur le podcast, parce que tu le sais, je le dis tout le temps quand je te parle, mais j'aime parler de lutte avec toi parce que ta vision de la lutte est unique et j'aime comment tu l'exprimes. Maintenant, shit, what a year, man. Damn. Hey,
attends, Kevin, excuse-moi de t'interrompre, mais il y a quelque chose d'important qu'il faut qu'on aborde premièrement. Est-ce que t'as littéralement chié à
Oh, wow! Et là, pour ceux qui suivent pas, tu fais référence au match que t'as eu avec Will Ospreay, que la dernière fois que t'es venu à notre émission, ben, tu pouvais pas en parler parce que t'es pas encore officiel. Ouais.
Où Kevin m'avait fait une promesse. Une promesse. Qu'elle est littéralement
chié à terre.
Écoute, j'ai pas littéralement chié à terre, mais j'avais la mâchoire à terre, disons. Mais man, pour vrai, écoute, moi, ce match-là, là, god damn!
Qu'est-ce que t'es le plus fier de ce match-là?
D'avoir répondu aux attentes, honnêtement. Je pense qu'on était positionné pour... on n'avait pas le choix que ce soit le match de l'année. Il fallait vraiment que ça soit excellent, que ça soit parfait. On n'avait aucune marge d'erreur. Aussi, dans le temps qu'on avait, qui était relativement restreint, dans un pay-per-view qui avait aussi d'autres gros matchs que tout le monde attendait, les attentes, c'était vraiment qu'on soit le meilleur match de soirée, le meilleur match de l'année à Impact. Puis, honnêtement, c'est surprenant et pas surprenant qu'on ait réussi.
C'est comment devoir faire un quote-unquote classique, tu sais, avant même que vous luttez, là. Les gens disent que ça va être un classique. Quand Will Ospreay, tu regardes le nombre de matchs qu'il a eu cette année, puis avec qui, t'es comme, tabarouette, comment je vais faire un match différent avec ça? Tu sais, comment vous vous êtes parlé avant le match, puis comment vous avez planifié ce match-là pour qu'il soit le plus différent des autres?
Je dirais que ce que tu dis, c'est en fait le contraire. C'est quand je vois Will avoir un match contre, avoir deux matchs contre, comme les matchs qu'il y a eu contre Kenny Omega, je regarde ça, puis de mon côté, c'est comme, OK, de faire ce qu'il fait avec ce que je fais, ça va être facile.
Je comprends.
T'as eu, évidemment, Ospreay, ça a été un de tes gros matchs cette année. Depuis la dernière fois qu'on t'a parlé, il me semble que t'es a aligné les gros matchs. T'as eu Andrade, t'as eu Swerve Strickland, t'as lutté contre des femmes, t'as eu Zack Sabre Jr., t'as lutté contre Billy Starks, t'as lutté contre Masha Slamovic. T'as lutté également contre Maki Ito. T'as lutté à peu près contre tout le monde. Comment justement cette année-là, avec autant de gros combats, comment tu l'as vécu? Comment t'en es fier de cette année-là? Puis est-ce que tu dirais justement que ça serait ta meilleure année dans le monde de la lutte?
Je suis content que tu soulignes le match contre Maki Ito parce que c'est honnêtement un des matchs les plus attendus qui a eu le plus d'excitation quand ça a été annoncé. Mais oui, honnêtement, je te dirais que chaque année où je lutte continue à être ma meilleure année. Mon but pour 2023, c'était de surpasser 2022. Puis je pense que c'est mission accomplie.
Puis j'imagine que 2024, ça va être de surpasser 2023, si seulement c'est possible.
Également, mais man, je te dirais que pour 2024, il
n'y
a aucune limite.
Ben, parlons-en de 2024 parce que là, t'es encore plus sur la map que t'étais. Il y a plein de belles choses qui s'en viennent pour Impact.
TNA.
Ben, en ce moment, c'est Impact, mais peut-être que quand ça va passer, ça va être TNA. Mais il y a plein de choses qui s'en viennent pour TNA, Impact, TNA, whatever. Bon. C'est quoi que toi, t'es comme, man, si je pouvais avoir ce petit bonbon-là, je serais content. Puis dis-moi que c'est le G1.
Encore une fois, va falloir que je mange beaucoup de dinde à Noël pour faire le G1 de l'année prochaine.
Je vais te le dire à chaque année.
Je suis encore au moins une vingtaine de kilos short du G1. Mais je vais faire de mon mieux, Kevin.
Ouais.
Mais sinon pour 2024, c'est quoi qui te ferait plaisir là, en 2024?
Je peux même pas le dire, je peux même pas le prédire. Le monde de la lutte bouge tellement rapidement que je sais même pas les opportunités qui vont être disponibles en 2024. Honnêtement, ça pourrait être absolument n'importe quoi. Mais c'est sûr que traverser la porte interdite, la Forbidden Door, puis avoir la chance de représenter Impact TNA dans d'autres promotions, c'est quelque chose que j'ai fait un peu avec New Japan en 2023 qui a été fantastique. Puis c'est quelque chose que j'aimerais reproduire dans d'autres promotions en 2024.
Tu parlais tantôt que t'étais content que je mentionne Maki Ito. Ben, je vais revenir là-dessus. Maki Ito, Masha Slamovic, Billy Starks, trois lutteuses quand même qui, à différents niveaux, à différents degrés, se sont démarquées en 2023, se démarquent depuis quelques années. Y a beaucoup de gens qui sont mi-figue, mi-raisin par rapport au match mix, intergender en anglais. C'est quoi ton opinion là-dessus? Puis qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens pour qui ça fatigue encore de voir un gars contre une fille pour différentes raisons, là?
Mais c'est qu'est-ce, de moins en moins, non?
Il y en a encore. Il y en a encore.
Je demande.
Qu'est-ce que tu pourrais dire à ces gens-là pour dire, hey, regardez, là, tu sais, de la lutte, c'est de la lutte, mais comment tu pourrais arriver à les convaincre?
Il y a aucun bon argument pour diviser la lutte par rapport au sexe des gens qui performent. C'est complètement ridicule. C'est un art, c'est du spectacle. Je comprends juste pas, ça m'étourdit à chaque fois d'entendre les critiques. Parce que, je veux dire, en 2023, on comprend comment ça marche, on sait c'est quoi la lutte. Puis de vouloir éliminer toutes les belles opportunités, tous les matchs qui pourraient se passer, toutes les bonnes chances qu'on a de faire des magnifiques performances, des combats de lutte. Puis juste à cause du genre des gens, on élimine ça, c'est complètement ridicule.
Je veux juste faire un petit follow-up. Qu'est-ce que tu as aimé de travailler avec, entre autres, Slamovich puis Makito, qui sont considérés là, quand même parmi les meilleurs au monde? Qu'est-ce que tu as aimé de travailler avec elles?
Ben, peu importe contre qui je lutte, je veux qu'il y ait quelque chose qui fasse ressortir du lot, quelque chose qui rend différent. Puis je veux dire, Masha Slamovich, elle a un aura de la fille la plus badass au monde. Puis de jouer avec cet élément-là, c'est toujours super bien reçu par les audiences. Puis Makito, je veux dire, elle a une des meilleures personnalités dans tout le monde de la lutte. Je veux dire, complètement attachante, mais aussi de personnalité énorme qui remplit toutes les pièces dans lesquelles elle performe.
Admettons, là, t'as le bâton, là, OK? Parce que là, t'as dit, ah, j'aimerais ça aller représenter TNA à peut-être AEW, peut-être, etc., etc. Mais on voit tellement de trucs se passer dans le monde de la lutte. On a vu CM Punk retourner à WWE. On voit ce qui se passe à All Elite. Puis vous faites de grandes choses avec Impact. Je pense qu'il y a des belles nouvelles qui s'en viennent pour vous, ou que c'est déjà sorti. Mais si t'avais le bâton, là, s'il y a un truc dans le monde de la lutte qui t'est comme, ça serait-tu le fun en tant que moi, Speedball McBilly fan, j'aimerais voir?
Je veux mon match contre Bryan Danielson. Je pense qu'on avait parlé la dernière fois, mais je sais que ça doit se passer en 2024. Il y a des chances que ça se passe pas du tout, mais c'est un dream match que j'aimerais avoir. Je veux dire, c'est quelqu'un qui a été qui a eu énormément d'influence sur ma carrière, puis que je regarde depuis que je suis tout petit. Donc c'est un combat que j'aimerais avoir bientôt.
L'autre chose que je voulais te demander, parce que moi je vois comment tu utilises tes réseaux sociaux. En utilisant la lutte, etc., etc. D'où tu dois mettre quand même pas mal de temps là-dessus, là. Parce que, tu sais, mettons, quelqu'un qui voit pas tes matchs peuvent suivre ta carrière, connaître tes signature moves, connaître tes trucs. Tu sais, tu mets vraiment beaucoup de temps et d'emphase sur monter tes pages sociaux puis en faire ce que c'est maintenant, là.
Oui, je veux dire, oui, c'est sûr que je passe beaucoup de temps, mais je suis très fier de ce que je fais dans un ring. Je suis fier de la personne que je suis devenu en tant que lutteur, surtout. Puis, if a tree falls in the forest and there's no one around to hear it, does it make a sound? Peux-tu me traduire ça en français?
Si un arbre tombe dans la forêt puis qu'il y a personne pour l'entendre, c'est ça.
Oui, c'est ça. Mais exactement. Je veux dire, le plus grand ennemi de la lutte présentement, de la lutte indépendante, c'est l'ignorance. C'est que le monde sache pas que ça existe. C'est le monde sache pas ça ressemble à quoi. Le monde a encore l'image de ce que la lutte était des années 80, début 90. Puis je veux dire, c'est pas ce que c'était du tout. Puis c'est vraiment, vraiment rare que je vois quelqu'un qui a un spectacle de lutte, un show de lutte, qui est là pour la première fois, puis il est comme, bah, j'aime pas ça. C'est pas le fun. Parce que pas mal tous les shows auxquels je participe, en fait, non, tous les shows auxquels je participe sont bons. C'est du bon divertissement, c'est une bonne soirée, c'est quelque chose qui est le fun à voir, c'est quelque chose qui est excitant pour eux, pour une audience, c'est quelque chose que il y a pas beaucoup de monde qui voit un show de lutte et sont comme bah, c'est assez pour moi.
Mm-hmm. T'as lutté partout dans le monde en 2023, particulièrement le Japon, l'Australie, l'Europe, partout en Amérique du Nord. T'as-tu, ça a été quoi ton coup de cœur de l'année? Puis je parle pas de la promotion, là, je parle de la ville ou du pays ou de l'endroit où tu luttais. Ça a été quoi ton coup de cœur de l'année?
Mais j'adore toujours le Japon. C'est toujours ma place préférée où lutter. Mais je dirais que je suis allé en Australie pour la première fois. Ça a été super. C'est avec World Series Wrestling qui font des grosses tournées avec des gros noms. Puis ça a été à peu près 2 semaines, mais super occupé. Voyager à chaque jour, prendre un vol à chaque jour, avec même dans le milieu de la tournée où on avait une seule journée de repos, c'est là que je suis allé au Japon, puis je suis revenu en Australie le lendemain, donc ça a été...
T'aimes le Japon à ce point-là?
Ouais. Mais ça a été une tournée super occupée, mais quand même, j'ai vraiment adoré, puis...
Montréal a été là juste une fois, puis là je parle évidemment pour tous ceux qui nous écoutent puis qui aimeraient ça de voir à l'œuvre, tu sais, dans leur cours là ou presque. T'as fait, je pense, Gatineau une fois, t'as fait Montréal une fois en 2023, Je sais que t'as un horaire hyper chargé. Mais est-ce qu'il y a des chances de te revoir, mettons, sur le circuit indépendant, que ce soit, tu sais, la NSPW, la AWS, le Lutte 07 Mystery Wrestling, y a-tu des chances, tu penses, où ton horaire est rendu tellement fou, tu sais, ça devient dur là, d'ajouter des dates au Québec?
Il y a certainement des chances, mais oui, c'est sûr que c'est difficile d'aller où je veux. Je te dirais que Montréal est une des places où j'adore retourner, mais il y a tellement de places. Je communique avec une promotion au Brésil depuis près un an et demi, puis je veux vraiment, vraiment y aller, mais c'est tellement difficile d'organiser l'horaire, puis les vols, puis plus c'est loin, plus ça devient compliqué. Tu sais, si je, admettons que j'ai un booking le samedi, qui est trop loin, ça veut dire que c'est plus difficile pour moi de me trouver un booking le vendredi et dimanche, tandis que si je reste local aux États-Unis, c'est plus facile de trouver des bookings, donc c'est vraiment, c'est le voyage puis l'horaire qui est difficile à organiser.
C'est de partager les voyages puis lutter plus souvent pour gagner ta vie, dans le fond, là, tu sais.
Je te dirais que c'est une job à plein temps. Parlant de réseaux sociaux puis tout ça, puis de ce que je fais mes journées, je travaille en théorie juste les fins de semaine. Je travaille vendredi, samedi, dimanche la plupart des semaines, mais en vrai, je voyage le jeudi, je reviens chez nous le lundi, je vais au gym, je fais des streams, les réseaux sociaux, booker mes voyages, m'organiser la marchandise, tout ça. C'est une job à plein temps. Juste les voyages, c'est une grosse partie. Booker des vols en Europe, puis booker 4 vols par fin de semaine, ça prend beaucoup de temps dans une journée.
T'es-tu en train de me dire qu'il faut amener Impact à Montréal, là?
Oui, c'est exactement ce que je suis en train de dire.
Hey, je veux que tu me parles d'une place où tu as lutté, parce que, tu le sais peut-être pas, mais on a quand même pas mal d'écoute en France. Et tu as lutté cette année contre l'Aigle Blanc, qui est un de ceux que j'entends le plus parler en France. Peux-tu me parler de ce combat-là, comment ça a été avec lui, puis la promotion là-bas?
Oui, c'est la deuxième fois que je lutte pour Bodyzoy, qui est une promotion basée en Belgique qui fait des shows en France. C'est la première fois que je lutte en France. Je sais pas comment c'est arrivé, mais j'ai manqué pendant les comme 4 ans que j'étais beaucoup en Europe, j'ai jamais lutté en France.
C'est fou.
Mais il y a énormément de talent. Je veux dire, c'est comme le Canada, il était il y a peut-être 4-5 ans où il y avait énormément de talent qui était prêt à exploser. Maintenant, c'est un peu plus ouvert. Il y a un peu plus de place où aller pour les bons lutteurs canadiens. Mais en France, c'est comme ça présentement. Il y a énormément de lutteurs qui sont calibre mondial, qui sont prêts à sortir, qui sont prêts à se démarquer, dont Aigle Blanc qui a passé un peu de temps au Japon, qui a passé du temps au Mexique tôt dans sa carrière, mais qui est absolument, je disais qu'il y a le monde contre qui j'ai lutté, qui sont à la télévision à faire des centaines de milliers de dollars par année, puis Aigle Blanc, en termes de talent, il n'y a aucune différence.
C'est fou, hein?
C'est mm-hmm. du talent qui gagne à être connu. Pourtant, on est à une époque en plus où il y a beaucoup de monde qui gagne leur vie avec la lutte, autant dans les circuits majeurs que sur le circuit indépendant. Et c'est fou de voir qu'il y a encore du talent comme ça qui est méconnu. Mais l'offre, il y a tellement d'offres que c'est dur de tout suivre, mais c'est le fun d'entendre des choses comme ça, tu sais, puis que toi, tu as la chance justement de parcourir le monde puis de lutter contre ces gars-là, ces filles-là, qui sont des fois un peu moins connues là, du fan, du casual fan qui écoute un show ou deux à la télévision.
Il n'y a rien, Patrick, qui me fâche comme entendre le monde dire « Ah, il n'y a plus autant d'argent qui se fait avec la lutte » ou « Il n'y a plus autant de monde qui regarde la lutte que dans les années 80-90 ». Quand c'est le contraire, c'est beaucoup moins concentré. Je veux dire, c'est impossible d'avoir les numéros, mais dans les années... En 1985, tu avais quoi? 300 lutteurs dans tout le monde qui étaient actifs. Puis, je veux dire, 80 étaient à WWE. Maintenant, sûrement, dans tout le monde, des dizaines de milliers de lutteurs, dont sûrement une couple de milliers qui en font, que c'est leur job, qui font leur vie avec la lutte, que ce soit directement en étant un lutteur ou entraîneur ou je sais pas comment d'autre. Il y a plein d'autres façons, mais l'argent est juste plus dispersé. C'est la même chose pour les ratings. C'est sûr que les ratings de la lutte à la télévision, c'est pas ce que c'était il y a 30 ans, mais je te dirais qu'il y a beaucoup plus de monde qui regarde la lutte à travers toutes les plateformes que jamais.
Toi, comment tu évalues un match ou comment tu es capable de prendre le pouls des gens? Parce que, tu sais, maintenant, si tu dis, ben, je prends le pouls des gens qui m'écrivent, mais c'est quand même ton fanbase. Fait que, tu sais, ils sont un peu biaisés. Après ça, t'as les Meltzer Stars, mais après ça, c'est une personne. Est-ce que c'est le vestiaire qui te donne un peu le pouls de si ça a bien été ou comment tu combines tout ça, là?
C'est un mélange de tout dépendant du combat, mais je te dirais que pour moi, ma satisfaction personnelle avec le combat est aussi importante que le promoteur, que l'audience qui a regardé le match, que la personne avec qui j'ai le monde avec qui je travaillais, de l'arbitre, le lutteur, l'équipe de production, tout ça. C'est tous des facteurs différents, mais je veux dire, je peux imaginer un combat que tout le monde a détesté, que moi j'ai pas aimé, que mon adversaire était comme ah c'était pas super, mais le promoteur c'était exactement ce qu'il voulait. Mm-hmm. Donc pour moi c'est un bon match quand même dans ce cas-là.
Et puis j'aime ça que Kevin mentionne Meltzer là-dedans, parce que quand t'as eu justement le nombre d'étoiles pour ton match avec Will Ospreay, qui était, si je me trompe pas, là, de mémoire, 5.25. 5.25. T'as réagi sur les réseaux sociaux en disant que c'était très cool, puis que vous étiez le premier match là, à Impact à avoir une aussi haute note depuis Samoa Joe, AJ Styles et Christopher Daniels, puis que c'était un peu insane pour toi. Et on entend souvent des commentaires de gens qui disent ah les étoiles à Meltzer ça vaut rien, puis tu sais c'est l'opinion oui juste d'une personne, mais pourquoi les gens et j'ai trouvé ça rafraîchissant que toi tu prennes la peine publiquement de dire hey non moi j'ai trouvé ça cool. C'était important pour toi de le faire, le statement. Qu'est-ce que tu trouves cool dans ce genre de star rating là?
Ça a été important à dire. Je trouve que le tweet que j'ai fait, c'était quelque chose que j'avais besoin de dire. Mais ça a été très difficile de dire tout ce que je voulais dire dans un seul tweet. C'est sûr qu'il y a beaucoup de critiques qui sont valides envers le système de un gars, seulement Dave Meltzer, qui décide ce qui est bon puis ce qui l'est pas. Puis il a pas toujours raison, mais la plupart du temps, quand il dit que quelque chose est bon, ça mérite d'être regardé. Puis il y a beaucoup de gens qui le voient comme ça. Puis comme je dis, le plus grand ennemi que Impact a, comme la lutte professionnelle en ensemble, c'est que le monde sont pas au courant, il y a pas assez de monde qui regarde. Puis je veux dire, c'est ce qu'Impact a fait en 2023, c'est tout fantastique. Puis tout ce qui manque, c'est plus de monde qui regarde, que le monde soit plus au courant de du genre de combat qui arrive régulièrement à Impact, puis qui va arriver régulièrement à TNA aussi. Que ça a été la fin d'un chapitre. Puis c'est comme ça qui se termine pour moi. Je trouve que ça l'augure bien pour 2024.
Je veux l'entrevue tirer à sa fin, Mike, mais je veux terminer avec une statistique que j'ai. J'ai le nombre de matchs répertorié par WrestleNomics jusqu'en novembre 2023. Donc, pour l'année 2023 jusqu'à la fin novembre. Et mondialement, avec 161 matchs, t'arrives au troisième rang.
Wow!
Et uniquement Canada-États-Unis, t'es au deuxième rang avec 142 matchs.
C'est qui le premier aux États-Unis?
Alec Price, avec 145.
Alec Price.
Ouais, qu'on voit entre autres à qu'on voit entre autres à C4, qu'on voit un peu à la AWS de temps en temps, qu'on voit à GCW aussi. Est-ce que pour toi, c'est une fierté, ça, de justement d'être aussi actif? Comment tu vois tu vois cette statistique-là?
Je le ferais pas. Je serais pas fier si toutes les matchs que j'ai faits avaient pas été bons. S'il y en avait qui étaient juste bon, ils sont passés puis sans plus, sans moins, je veux dire. Mais le fait que j'ai réussi à être aussi consistant, que tous les matchs valent la peine d'être regardés, c'est ça que je suis fier. Puis numéro un monde, c'est Fuminori Abe.
Oui, exact. Puis le numéro deux, c'est il y en a deux à égalité, Fukigen Death et puis Kaori Yoneyama.
Yoneyama. Ah oui, ok, oui.
Ouais, avec 196, 180 respectivement, puis toi, t'en as 161. Il y a juste des Japonais en passant. Au monde, là, la liste du top 10, oui, c'est uniquement des Japonais, puis toi.
Oui, OK, ça a de l'allure. Si tu checkes le nombre de galas de lutte qui se passent à Tokyo seulement dans une semaine, c'est assez fou. C'est pour ça que c'est quelque chose qu'on disait beaucoup quand je commençais à lutter, quelque chose qu'on dit moins maintenant, mais il y a trop de luttes à Montréal, on va brûler la ville, qui est quelque chose de complètement ridicule. Je trouve que ça, c'est un bel exemple qu'à Tokyo, il y a comme une vingtaine de shows à chaque jour. Ça fait juste rendre la lutte plus populaire en tant que sport, en tant qu'événement culturel.
Moi, c'est ce que j'aime de toi, là. Juste l'excitation que t'as de jaser de c'est qui le numéro un, puis lui, c'est comme, t'es vraiment content de savoir, là. C'est pour ça qu'on t'aime autant, là. T'es un vrai fan de lutte en dedans de toi. Est-ce que tu trouves que, dernière question, je vais laisser aller après. Est-ce que tu trouves que le fan de lutte qui est en dedans de toi, il est encore aussi présent qu'au cours des dernières années, où là, tu travailles tellement que là, c'est vraiment plus business, là? Je te laisse aller après, là.
Man, plus que jamais, j'adore la lutte. Si j'avais plus de temps, je ferais encore plus de temps à en regarder. Il y a plein de monde qui m'envoie de leurs combats pour que je les regarde, puis je leur donne des critiques, puis ça me fait toujours plaisir. Si c'était pas par manque de temps, je le ferais encore plus. Je regarde tous les combats que je peux, de partout dans le monde, toutes les promotions. J'aime ça plus que jamais. Puis Patrick, je vais pas te corriger, mais Kaori Yoneyama puis Fuki Gendes, c'est la même personne.
Ah ben, j'étais pas sûr. Le pire, c'est que je suis venu pour... Je me suis demandé si c'était pas ça. Mais j'avoue que je suis moins familier avec Yoneyama. Donc, j'étais pas sûr, mais t'as bien fait de le préciser. Puis tu vois, j'ai une autre statistique. Si t'as lutté pour 87 différentes promotions en 2023.
87?
Il y en a deux en avant de toi. Brian Keith qui a lutté dans 90 promotions différentes. Puis Marcus Matters, 96. Donc, c'est fou, là. C'est pas juste. Tu sais, t'es 160 combats. Tu les as juste pas faites au même endroit, là. Tu t'es promené, puis 87 fois. 87. Comme ça, c'est assez impressionnant.
Hey, une semaine, c'est 52 semaines, là. Une année, c'est 52 semaines, juste le dire.
Encore une fois, Mike, je regarde ces statistiques-là, puis ça me rend encore plus fier, ça nous rend encore plus fiers. T'as eu une superbe année 2023, puis tu sais quoi? On t'en souhaite une 2024 encore meilleure, si seulement ça, c'est possible. Merci beaucoup, Mike Bailey, d'avoir pris le temps encore aujourd'hui.
Merci Patrick et Kevin, je vous souhaite de belles fêtes et une belle fin d'année.
Toi aussi, repose-toi un peu, man.
Oui, exact. Essaye de te... Si tu finis à 159 l'année prochaine, c'est pas si grave que ça, repose-toi un peu. Hey, merci beaucoup, Mike.
D'ici la fin d'année, il me reste 6 autres shows puis 2 séminaires.
Colique. Et voilà. Hey, merci beaucoup dans ça à toi, Mike. Bye-bye, bon temps des fêtes.
Merci.
Super entrevue, Mike. Hein? Un de nos préférés ici.
Tout le temps bon.
Un de ceux qu'on a reçus le plus souvent. Maintenant, on s'en va du côté des AEW. AEW a eu une grosse année avec ses débuts canadiens, ses débuts dans plusieurs villes canadiennes, ses débuts ici à Montréal. Et puis, on a parlé à Ivo Luno quelques jours ou peut-être une semaine et demie avant les débuts des AEW à Montréal. Donc, gardez ça en tête quand vous allez écouter l'entrevue. Ça a été fait avant Montréal. Donc, il commente Montréal comme si c'était pour se passer bientôt. Puis toujours intéressant de parler à Uno qui a une double citoyenneté, mais dans le fond, qui fait plusieurs choses au sein de la compagnie. Il nous parle également de Mystery Wrestling, donc sa compagnie de lutte, Lutte 07, Mystery Wrestling. Il nous en parle. Donc, toujours très intéressant de parler avec Ivo Luno. On s'en va écouter ça maintenant. Alors, comme à chaque fin d'année, on parle à nos Québécois qui nous représentent un peu partout dans le monde. Et puis, un habitué de ce rendez-vous de fin d'année, c'est bien sûr Ivo Luno de AEW et de Ring of Honor. Comment ça va, Uno?
Ça va bien, Pat. Merci encore. C'est quoi, la troisième année qu'on fait ça maintenant?
Je pense à la troisième
fou,
année.
Hein? C'est fou,
Ouais,
c'est à chaque année, ce que je trouve super intéressant, c'est on vous voit évoluer, on voit vos rôles évoluer, mais on dirait qu'on est plus confortable. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais,
ouais.
Vous êtes used to it maintenant. Là vous êtes big time. Là. Vous êtes arrivé. Je trouve ça vraiment le fun de voir les Keb à AEW de plus en plus s'établir dans le. Ben oui, mais on est là parce qu'on mérite d'être là. C'est pas parce que c'est une Est-ce que je sais pas si tu comprends un peu où je vais avec ça, là?
Je me sens beaucoup plus à l'aise maintenant que je l'étais il y a 2 ans sur notre interview. Je me sens plus à l'aise dans la compagnie. Puis c'est sûr qu'en tant que média, oui, mais. En tant que rôle dans ma compagnie, je me sens comme s'il y a eu de l'avance, c'est certain.
Ouais.
C'est peut-être l'année, Uno, où tu as le moins lutté à la télévision d'AEW. Je pense que tu as fait Dynamite une ou deux fois. On t'a vu à quelques reprises là, parler au micro, bon, accompagner tes boys, Dark Order, mais comme tel, lutter à la télévision, ça a été un peu moins souvent. T'as plus souvent fait Dark ou même Ring of Honor. Est-ce que c'était ta décision? Comment t'as vécu ça? Peux-tu nous en parler un peu?
Oh, c'est certain que c'était pas ma décision de pas être à TV nationale. Si ça serait moi, je serais comme MJF, j'aurais 30 minutes chaque show aussi. ça fait partie de la game. T'as des années qui sont fortes pour toi, puis t'en as qui ne le sont pas. C'est drôle parce que si je me souviens bien, l'année passée, quand on a fait notre interview, j'étais pas très certain c'était quoi notre futur en tant que Dark Order. Ouais. Mmh. Puis cette année, on a peut-être lutté un peu moins à la télévision, mais je me sens comme on a eu un beaucoup plus gros rôle. J'ai eu des beaucoup plus gros moments personnellement que j'ai eu auparavant, dans les années d'avant. C'est vrai que j'ai pas pu lutter sur Dynamite autant, mais j'ai eu un pay-per-view Ring of Honor. On a fait beaucoup de Rampage, on a fait beaucoup d'autres choses. Donc, je me sens quand même comme j'en ai fait beaucoup pour cette année.
Bon, on va parler de Ring of Honor parce que le positionnement de Ring of Honor est particulier, je pense. Je pense que tout le monde, on essaye, tout le monde qui est à l'extérieur, vous avez sûrement un meilleur gauge que nous, mais tout le monde qui est à l'extérieur essaie de vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut faire avec Ring of Honor dans l'écosystème de la AEW. Est-ce que toi, tu le sais? Puis si oui, peux-tu m'éclairer?
Non, mais tu sais, c'est certain, j'aimerais savoir la réponse aussi, mais je crois que Ring of Honor, c'est dans un stade d'évolution en ce moment. On est là pour faire ça que c'était pas pour s'écrouler. Tu sais, avec l'achat, tu reçois des décennies de lutte de Samoa Joe, de Bryan Danielson, de Christopher Daniels, incluant des matchs de moi puis de beaucoup plus d'autres de Canadiens puis beaucoup plus de lutteurs de AEW. Donc, je crois que initialement l'idée, c'était d'acheter le brand pour le stack de vidéos qu'on avait avec aussi, puis d'en faire de quoi de nouveau. C'est certain, tu sais, on a acheté Ring of Honor, mais après ça, on a eu l'apparition de Collision. En rajoutant Collision, ça voudrait dire que, bon, mais finalement, on n'est plus sur la route une fois par semaine, c'est devenu deux fois par semaine. Donc, je pense que ça a changé un petit peu le parcours de qu'est-ce que Ring of Honor était pour être. Initialement, c'était supposé être la lutte pure, puis la lutte... Ring of Honor, c'était vraiment un style. C'est 25 minutes de deux gars qui se tabassent, qui font des prises de lutte soumission. T'as le Pure Rules, t'as le Fight Without Honor. T'as des affaires établies. Maintenant, je crois qu'on est dans une croissance que on a tellement de lutteurs à W que c'est quasiment une place pour le monde de se découvrir. T'sais, en place de se découvrir sur Dynamite, puis que la première fois que tu vois lutter, c'est sur Dynamite. Maintenant, tu vois peut-être Ring of Honor pendant 2-3 mois, commence à comprendre c'est qui sont, puis commence à comprendre c'est quoi leur stock pour qu'ils se rendent à la télévision. C'est pas comme un developmental, parce que c'est pas ça du tout, mais c'est une place pour... Par exemple, Dark Order, pendant une couple de mois, on n'était pas à la télévision, puis on a été bougé à Ring of Honor. Mais c'était un moment pour nous d'évoluer. C'est qui Dark Order? On a été les gens comédiques de l'année passée, puis on a avec notre histoire avec The Righteous, c'est devenu qu'on était beaucoup plus violent, qu'on prenait les choses plus au sérieux. Puis tu peux voir ça avec Daily Moriarty, tu peux voir ça avec les championnats, puis qui devient champion, puis comme l'évolution de ce monde-là. Gates of Agony, Brian Cage, qui était Six Man Tag, Mogul Embassy. Ça a tout été bâti sur Ring of Honor. Maintenant, ils sont quasiment à la télévision chaque semaine. Donc, je crois que c'est vraiment une bonne place pour la plupart de nos lutteurs qui ne sont pas sur Dynamite en tout temps pour créer leur personnage, pour créer l'anticipation pour quand ils se présentent officiellement à Dynamite, puis à Rampage, puis à Collision.
Je vais poser une autre question, puis je te laisse aller, Pat, après. Juste
mais non, vas-y, pouce.
Y a-tu une perle rare à Ring of Honor? Parce qu'il y a tellement de luttes qui se fait dans les quatre grosses compagnies que, puis moi, je vais être honnête avec toi, je trouve ça difficile d'avoir le temps d'aller voir Ring of Honor. J'ai regardé qu'est-ce que toi pis Stu faisait, oui, naturellement, parce qu'on va support nos Kebs, mais, pis by the way, c'était sick, là. mais après ça, tu sais, d'écouter le produit constamment, toutes les semaines, j'avoue que j'ai un peu de misère. Est-ce que, pas parce que c'est pas vrai, parce qu'on manque de temps, il y a trop de lutte. Est-ce que il y a quelqu'un que t'es comme, Kev, make some time pour cette personne-là, parce que les gens sont en train de manquer le bateau, là?
Ben, c'est fou, la plupart du monde qui font leur croissance à Ring of Honor, tu vas les voir maintenant à la télévision. Tu sais, t'avais Commander, Gringo Loco, Vikingo. La plupart des luchadors étaient dédiés à Ring of Honor initialement, mais c'est tellement bon, c'est tellement excitant. T'es vois sur Rampage, t'es vois sur Dynamite. Ils ont leur moment maintenant. Il y en a un que ça fait 4 ans qu'il est ici avec nous, mais qu'il commence à le démontrer beaucoup plus sur Ring of Honor parce qu'il y a une place pour déprouver son style, mais Angelico, qui en ce moment a une petite feud avec Eddie Kingston pour le championnat, est capable de finalement démontrer son style de lutte. T'sais, il fait le style s'appelle Yave, qui est un style de lucha spécifiquement en soumission. Ça se dédie pas bien dans un combat de 3 minutes sur Rampage. T'sais. Avec Ring of Honor, c'est des combats de 14-15 minutes. C'est beaucoup plus technical, beaucoup plus une personne contre l'autre et non multiple. Il est capable de se prouver maintenant en tant que lutteur. Puis je crois que récemment, dans les derniers mois, c'est lui qui s'est démarqué plus que n'importe qui.
Pour continuer sur le filon Ring of Honor, bon, en 2023, on a vu le retour de ton partner de longtemps, Stu Grayson, qui est revenu avec la compagnie, particulièrement avec Ring of Honor. Vous avez été dans une genre de rivalité à Death Before Dishonor, d'ailleurs, vous êtes affronté dans un 3 contre 3. Puis moi, je m'attendais à éventuellement de la rivalité continue, qu'il y ait un match en simple entre vous deux, chose qui n'est pas arrivée depuis un bon bout de temps. Puis, ben c'est pas arrivé. Surtout, en fait, je pense qu'il n'a pas relutté à Ring of Honor depuis Death Before Dishonor, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans cette histoire-là?
J'imagine, on a tellement de lutteurs puis on a tellement qui arrivent en même temps. C'est que notre histoire avait l'air d'avoir un point final, même si nous autres, on croyait qu'on avait un peu plus. Autre personne voulait qu'on soit dans d'autres histoires. Donc, j'ai l'impression que c'est un peu ça. C'est d'un côté tiré de notre histoire pour faire quelque chose d'autre. Righteous est tiré de notre histoire pour faire de quoi avec MJF. Et ça a juste à donner que, oh bon, c'est voici le point final pour ça. Pour Stu, c'est un peu drôle parce que le point final était que on était amical finalement. On a eu notre combat. Il y avait un moment de respect. J'ai serré la main, puis il est parti. Mais il est parti de les deux groupes. Donc, en ce moment, je ne sais pas, c'est vraiment... c'est un questionnement de ça va être quand qu'on va revoir Stu Grayson, ça va être où qu'on va voir Stu Grayson. Puis, j'aimerais te donner la réponse, mais je ne sais pas. Puis je suis pas certain que Stu Grayson le sait non plus. Je pense qu'il est il est dans sa phase de découverte. Moi, personnellement, j'espère qu'on le revoit en conséquence pour Montréal qui s'en vient bientôt. Puis je sais pas c'est quand ça va sortir. Espérons que par le temps que ça sort, tu le vois, Stu Grayson, encore.
Ça va sortir après Montréal, mais s'il est là, on fera une mise à jour, nous autres, dans nos introductions.
Ouais, on fera comme si on le savait tout le long. Mais moi, j'espère que c'est là qu'on va le revoir.
Mais dis-moi, juste faire du pouce là-dessus, toi contre Stu, un contre un, c'est-tu quelque chose qu'on risque de voir éventuellement? C'est-tu quelque chose que même vous deux ensemble, vous aimeriez faire parce que vous êtes en équipe depuis tellement longtemps? Je vous suis sur la scène indépendante depuis vos débuts. Puis moi-même, je pourrais pas dire la dernière fois que vous vous êtes affronté un contre un.
Un contre un, ça aurait été C4, puis ça serait il y a 8 ans, je crois. Okay. Ça fait 17 ans qu'on est une équipe ensemble. Puis je pense qu'on s'est lutté 6-7 fois en total. On a quand même une rivalité. C'est ça le problème d'avoir un partenaire par équipe, c'est que, oui, on travaille tellement bien ensemble, mais éventuellement, on sait que faut évaluer c'est qui, un contre l'autre, qui est meilleur. T'sais? Puis on l'a fait à plusieurs reprises. Puis honnêtement, si c'était dans un monde parfait, puis ça, je sais que l'interview va être passée à Montréal, mais moi, dans un monde parfait, le match à Montréal, ce serait moi et Stu contre Parker et Daddy Matt.
Et Matt, ouais.
Ouais. Puis, ça serait. Puis, moi, si dans mon idéal, une soirée serait ça, puis la deuxième soirée serait moi contre Stu. Parce que, tu sais, Personne ne le sait vraiment parce que Stu Grayson n'a pas pu apparaître à la TV pendant cette année, mais c'est un des meilleurs lutteurs au monde. Puis, pour moi, pour que moi je me démontre en tant qu'un des meilleurs lutteurs au monde, faut que je lutte un des meilleurs lutteurs au monde aussi. C'est la manière que c'est la manière que deux lutteurs qui sont très bons deviennent meilleurs. Donc, j'anticipe, j'aimerais lutter, honnêtement. Je suis pas certain ça va être quand, je sais pas ça va être où, mais oui, surtout avec comment que notre histoire est finie à Ring of Honor, j'imaginerais la prochaine étape aurait été ça. Puis j'espère qu'on peut le voir cette année aussi.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Kev, pardonne-moi sur un instant. Tu sais, on parle souvent de Kevin.
Pis... Pat, non, tu veux mais... faire l'entrevue tout seul?
Non. Je te jure que non. Mais c'est parce que ça m'allume ce qu'il dit. Tu sais, on parle souvent, tu sais, la rivalité des Québécois, c'est Kevin avec Sammy. Puis ils ont tellement une bonne chimie, autant quand ils luttent en équipe que quand ils s'affrontent. Toi, puis toi, vous l'avez en équipe, ça, on le sait. Avez-vous cette même chimie-là quand vous luttez en contre l'autre?
Oui. Je dirais les trois meilleurs lutteurs, j'ai jamais lutté en simple, Stu serait un des trois. Il n'y a pas personne qui prend, qui sort le plus de moi que Stu Grayson. On se connaît tellement bien que la formule devient plus complexe. Je veux pas perdre à mon ami. Puis lui veut pas perdre à moi. Ça devient que on s'upstage, puis c'est. Tous mes combats, mes meilleurs combats au monde que j'ai fait dans mes 20 ans de lutte, la plupart sont avec Stu. Non seulement en équipe, mais aussi ensemble aussi.
Kev, je te laisse aller pour deux questions, vas-y.
On ne dira pas quoi faire, là. Tu sais, ce que je trouve intéressant avec AEW, c'est que tout est à faire, malgré le fait que tout a été déjà construit. Donc, il y a tout le temps des choses qu'on peut rajouter pour soit améliorer ou découvrir, parce que au début de l'année, je pense pas que Wembley c'était une option, tu sais, avant qu'il l'annonce. Ouais, bang, c'est rendu une option. Bang, on a Will Ospreay. Bang, Will Ospreay va être à Wembley. Y a-tu des choses que tu dis, c'est tellement un wildest dream, là, mais qu'avec AEW, c'est tellement tout ouvert, on peut tellement tout faire que je pense qu'on peut y arriver avec ça en 2024.
Moi, honnêtement, tu sais, c'est Wembley, c'était tellement moi, j'étais très surpris. Quand on l'a annoncé, puis je l'ai dit publiquement, puis je le disais personnellement. Moi, je croyais qu'on n'était pas pour remplir la bâtisse. C'était impossible. Wembley, 80 000 personnes, c'était impossible. On n'était pas capable de faire ça. Puis on l'a fait. Puis ça a démontré moi, puis ça a démontré beaucoup du monde qui pensait que c'était pour pas arriver, que oui, on est capable de faire des affaires incroyables. Moi, si je prends gros picture, c'est sûr le Japon puis Tokyo Dome serait concept, mais aussi en même temps, c'est quand même c'est possible. Aller au Mexique puis faire Arena Mexico ou aller au Mexique et faire une arena de 30 000, ça semble impossible, mais en même temps, on a prouvé qu'on est capable de faire l'impossible. Donc, tu sais, il reste encore des choses puis. Non seulement on a tellement de places européennes qu'on peut lutter dedans, on n'a jamais même fait Vancouver, il y a un paquet de villes qu'on n'a jamais pas faites qu'on peut aller se propager dedans, mais ça serait les grosses. Tokyo Dome, c'est certain que moi j'aimerais lutter là, c'est certain, mais aussi pour AW, je pense que ça serait un gros moment.
Juste rajouter, parce que là tu parles du Tokyo Dome, là, puis on sait que vous avez
une valeur. Tu l'as vu tout seul ou
Non.
Hey.
Non, mais tu parles du Tokyo Dome, OK? Puis un élément que je trouve super intéressant, c'est le fait que on voit des gars comme Eddie Kingston aller faire le G1. On voit des gars. Bon. Là, vous êtes plus ensemble avec Stu, mais. Fait, admettons, on jase, là, OK? On jase.
Nonobstant avec Stu, non, mais admettons qu'il y a un tag league qui se présente. Ouais. Admettons qu'il y a un G1 qui se présente. Parce que vous avez une relation, là. Est-ce que c'est quelque chose, t'es comme, hey, je suis prêt à partir au Japon pour plus que 3 semaines, là, parce que c'est long, là. Est-ce que je suis prêt à partir au Japon pour probably couple of months?
Ah, je vais le dire publiquement. Si aujourd'hui on m'invite au G1, je vais partir 6 mois. Tag leave, je vais déménager pour les prochaines années. Non, moi, c'est certain, c'est des opportunités que AEW m'offre. C'est ça qui est intéressant de AEW, c'est que on est une compagnie, mais on est une compagnie avec une alliance avec le monde indépendant, avec le monde de New Japan, avec le monde de CMLL, avec le monde de AAA, avec le monde de DDT, Noah. Il y a des avenues un peu partout. Puis oui, c'est certain, si j'aurais l'option de faire le G1 Classic, j'irais. Si j'aurais l'option de faire le Tag League, je le ferais aussi. Je pourrais faire Fantasia, comme Fantasia, je le ferais. Si je pourrais faire DDT, je le ferais. Donc, c'est oui, si on m'offrait l'opportunité, je le ferais, c'est certain.
On parle de différentes promotions. Il faut parler de ta promotion à Gatineau, Lutte 07. Et puis, j'ai comme l'impression que les shows que vous avez commencé à faire, les Mystery Wrestling,
oui.
Ou un peu à la PWG, je ne vais pas dire que tu as copié PWG, mais tu t'es inspiré de ce que Mystery Vortex était à la PWG. J'ai l'impression que c'est comme quelque chose que toi et ton partenaire aimez beaucoup faire. Est-ce que c'est quelque chose qui, par exemple, pour l'année prochaine ou pour les années futures, vous voudriez vous concentrer uniquement, faire uniquement des shows Mystery Wrestling où personne n'est annoncé, puis le monde paye leur billet, puis ils arrivent, puis ils ont une carte complètement surprise? C'est-tu un genre de concept de promotion dans lequel vous voudriez vous diriger?
Oui, honnêtement, mon plan les 5 prochaines années, c'est ça.
Ah oui, OK.
Le 07, ça a été le fun, puis ça va quand même exister dans le monde de Gatineau, mais Mystery Wrestling, ça a un potentiel international. Puis on le voit déjà. Notre premier show en ligne, live, on avait 700 personnes. On est rendu là, par maintenant, quand le show va sortir, on va être au 5e, mais notre 4e, il y en avait 1600 qui regardaient live.
Wow!
Le prochain, je suis pas mal certain, quand ça va sortir, vous en savoir plus, mais je suis pas mal certain qu'on va en avoir encore plus. Puis ça, c'est des shows que nous autres, on aime faire, parce que moi, dans le monde de la lutte, qu'est-ce que j'aime le plus, c'est les surprises. Mystery Vortex, DDT, comme quand tu regardes un combat pis t'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver après, tu sais pas qui va sortir, tu sais pas si tu regardes un combat qui est hardcore, tu sais pas si ça va être un 2 out of 3 falls, tu sais même pas si... Quand tu viens à Elmer Gatineau, Québec, là, quand tu viens dans un petit secteur, dans un petit gym, puis tu te dis, je sais pas qui sort, puis soudainement, un gars de New Japan sort, c'est l'affaire la plus incroyable puis la plus folle qui pourrait arriver. C'est un peu... C'est comme un merci à ma ville que j'ai vécu toute ma vie, puis à ma petite crowd que j'ai lutté en avant, ça fait 20 ans. Mais aussi, c'est comme un merci à la lutte. Qu'est-ce que moi j'aime à la lutte, c'est qu'est-ce qu'on voit sur Mystery Wrestling. So, quand tu vois des niaiseries, mais c'est parce que moi, pendant des années, j'étais Player Uno puis j'aimais faire les niaiseries, Beef Wellington, tu sais, Fred la Merveille, c'est toutes des affaires qui viennent de notre secteur. Quand tu vois les meilleurs lutteurs au monde, Ami Sakura puis Maki Ito se lutter, mais ça, c'est parce que moi, je suis un fan de Joshi Pro Wrestling. Puis j'imagine que, en surprise, quand tu sais pas que c'est ça qui va arriver, ben soudainement, tu fais donner un 4-star match, mais ça va tellement sentir comme beaucoup plus parce que tu n'avais jamais anticipé ça. C'est comme voir un film pis tu sais pas que c'est bon, mais quand tu fais donner quelque chose qui est bon sans le savoir que ça va l'être, c'est 10 fois meilleur. Donc, c'est un peu notre principe. Puis oui, on va en faire pendant... j'ai l'intention d'en faire un chaque 5 à 6 semaines pour les prochaines années. J'en ai un en décembre, le 7 décembre, puis après ça, on va en avoir un en janvier, on va en avoir un en mars, ça va continuer de là.
Wow! C'est quand même un wow!
C'est un concept qui est vraiment le fun.
Qu'est-ce que, de ton expérience avec AEW, tu peux amener là-bas, au terme business?
En tant que business, c'est certain que, tu sais, moi, c'est tout associé à mon nom. J'ai décidé, originalement, quand on faisait Mystery Wrestling, je pourrais juste le démonter puis le garder tout seul. Mais le projet, c'est que c'est pas vraiment une fédération de lutte. C'est moi, avec un de mes 10 amis de lutte, qui regarde de la lutte, puis vous faites partie du podcast, directement. Donc, comme okay. Mon concept, c'est que je veux que ça soit easy going. Je veux que ça soit facile à regarder. Je veux que le point d'entrée est gratuit. T'sais. Puis c'est pour ça que quand on fait les shows live, on le promote que c'est live, puis on dit que c'est complètement gratuit. C'est votre chance de le regarder gratuit. Si tu veux nous donner de l'argent après que c'est rendu en ligne, oui, c'est parfait. Mais pendant les 2 heures que le show arrive, c'est gratis. C'est toi, moi, puis un invité, puis on hang out, puis on regarde la lutte ensemble. Puis pour AEW, qu'est-ce qu'ils m'aident? C'est certain, j'ai toutes les opportunités de parler aux meilleurs talents au monde. T'sais. Je dis pas que Adam Copeland va être sur notre show, mais le fait que je suis capable d'y parler veut dire que j'ai possiblement l'option d'avoir Adam Copeland sur mon show. Lutter avec des John Moxley me donne l'option de possiblement avoir John Moxley dans notre show. Donc, ça me donne vraiment des grosses opportunités pour au niveau international, puis vraiment aider la croissance de Mystery Wrestling, mais aussi aider la croissance des Canadiens. Pour moi, qu'est-ce que j'aime de Mystery Wrestling, c'est que, oui, j'emporte des gros noms, mais j'emporte aussi des Canadiens que je veux qu'ils se démontrent, puis je veux qu'il y ait une plateforme pour se rendre où que moi je m'ai rendu. C'est pas facile d'être un lutteur canadien puis se rendre à la scène américaine ou la scène internationale. Donc, j'espère, avec ce qu'on fait, ça peut nous projeter en avance. Puis aussi, maintenant que je comprends comment que les événements AEW sont runnés, ça m'aide vraiment beaucoup à réaliser qu'est-ce que le monde connecte, qu'est-ce que le monde connecte pas un peu plus. Donc, c'est quelque chose que j'ai vraiment mis du temps pour Mr. Wrestling.
L'entrevue tire à sa fin, Uno, mais on pourrait pas te recevoir dans une revue de fin d'année sans te parler de notre présence à moi et à Kevin à un de tes shows.
Ah, c'est vrai!
L'été dernier. Oui. Où on a tous les deux géré une équipe.
J'attends encore le callback, I'm just saying.
Et puis ça s'est moins bien terminé pour moi, pour Kevin, mettons. Je dois t'avouer quelque chose. Quand je m'en allais vers ton show, puis je me rappelle plus qui c'est, toi ou quelqu'un d'autre qui m'a appris le premier, que vous vouliez que je fasse un stunt, que vous vouliez que je fasse, que je passe à travers une table, une porte, quelque chose, comme fait. OK. Uno se revanche pour quelque chose que j'y ai fait, puis je sais pas quoi. Mais.
Non. Mais... Je me souviens bien, c'est Mathieu Saint-Georges qui était comme. Pan après, devrait aller à travers d'une table. J'ai dit, bon, ben, si tu veux y mander, ça me dérange pas.
qu'est-ce que t'as pensé de la. Je sais pas si t'as eu la chance de le voir live ou par la suite. Qu'est-ce que t'as pensé de la performance de notre ami Kevin Raphaël qui en était là à tellement ses débuts là, dans un show comme ça. Là.
Ah, j'ai bien aimé, Kevin. T'as déprouvé que t'as un chariste en avant d'une crowd, ça, c'est certain. Puis surtout considérant qu'on t'a tout mis ça sans jamais te dire en avance, sans te donner aucune avance d'information, t'as vraiment bien fait.
Merci.
On t'a l'a-tu déjà envoyé ce combat-là, Kevin?
Non.
Bon, ben, va faire ça après cette interview ici.
Wow!
Moi non plus, je l'ai pas. Puis tu veux savoir le plus drôle, Uno? C'est que quand on était backstage, puis qu'on passait en revue le match, tu sais comment ça se passe, là? C'est ben comme oui. whip, blablabla. Puis à un moment donné, c'est boum, boum, boum. Puis là, c'est whip, OK, tag, boum, boum, boum. Les boum, 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 là, Kevin comprenait absolument pas ce que ça voulait dire.
J'étais comme, de quoi qu'il me parle avec son boum, boum, boum? Dis-moi des mots, bro. À un moment donné, j'ai juste entendu mon nom. Je fais, oh, damn, j'ai pas compris. C'est quoi le boum? Quoi le boum? What boum, Madonna?
Ouais, la lutte, le langage, c'est essentiellement des sons et non rien d'autre.
mais merci encore de l'opportunité. Là. C'était vraiment le fun de pouvoir faire ça. Mais en plus, le crowd était on fire. Puis, anytime, man, nous, en tout cas, moi, personnellement, pas tout aussi, je pense, mais...
Ben oui, absolument.
C'est le genre de trucs...
Comment t'as dit ça, non?
J'ai dit, êtes-vous prête à faire des deathmatch?
Ah ouais,
non! Depuis, j'ai vu Hangman boire le sang de l'autre, I'm done!
Ah non, moi tout!
Hey, en terminant, Uno, la question qu'on te pose à chaque année, à quoi on peut s'attendre de Evil Uno pour 2024?
Bon, si tu pensais que j'étais violent contre John Moxley cette année, je te dis en 2024, je vais faire sûr qu'il y ait beaucoup plus de monde saigne alentour de moi.
Oh! mais toi, t'as un masque au moins. Fait que tu pourras pas boire le sang de personne d'autre. Hey, Evil Uno, toujours un plaisir. On te souhaite Bonne chance pour 2024. Continue de bien nous représenter de cette façon-là. Et puis, ça va être un plaisir de te reparler au cours de l'année. Puis bien sûr, notre rendez-vous annuel à la fin de l'année.
Parfait. Merci beaucoup à vous. Puis on se reparle, je suis certain, l'année prochaine.
Bon, je suis sûr que même avant.
All right. Super entrevue. Le dernier et non le moindre. Celui qui a fait réagir plusieurs milliers de personnes au Centre Bell avec un chant que je vais me rappeler toute ma vie, Papa Magie, Daddy Magic, Matt Menard, qu'on a tourné, je vous le rappelle, quelques jours après AEW à Montréal. Donc lui, contrairement à Uno, va avoir une perception de ce qui s'est passé ici à Montréal. Et puis, ben, on parle de son année. On parle évidemment de l'émotion qu'il a vécue avec avec les shows de Montréal et puis avec son petit gars dans ses bras et tout. Vous avez vu les images. On s'en va parler à Papa Magie, Matt Menard. C'est toujours un bonheur de le recevoir sur notre podcast Daddy Magic, Papa Magie, Matt Menard. Comment ça va, Matt?
Bonjour, salut, ça va bien? Et vous autres, Pat, Kevin?
Ben moi, ça va super bien. Moi, ma question, c'est, rappelle-moi, c'est qui ton NFL team?
Oh, the Kansas City Chiefs.
Okay, so it's coming. It's Buffalo today.
Yeah, it's gonna be rough, I think.
What's going on?
I don't really know what else. I don't know what to...
Buffalo a pas une bonne saison.
Je sais pas de quoi m'attendre.
Non, mais Buffalo n'a pas une bonne saison, mais c'est parce que leur quarterback, il est shit. Mais les receveurs des Chiefs sont bad aussi. I don't know what's going on over there, man.
I just want to say, like, it's the same core that we had last year, minus Juju Smith. So, like, we won the Super Bowl. I don't understand what the difference is.
Mais dis-moi, Matt, t'es-tu comme fâché qu'il y ait beaucoup d'attention avec Travis Kelce et Taylor Swift, ou toi, ça te dérange pas pantoute?
Non, la première semaine, oui, ça me gossait, là, mais après deux semaines, j'étais comme, OK, on est les heels, là, let's go.
That's it. C'est une mentalité de lutteur.
Because everybody wants to hate the Chiefs. Tout le monde veut nuire, right? Yeah. So, just own it.
Quand j'en parle à la radio, tu sais, j'en aime à la radio des fois, puis quand j'en parle à la radio, je dis toujours, Taylor Swift et les Chiefs de Kansas City.
Oh, there's a real comedian over here.
Yeah.
Hey Matt, Montréal, ça a été, bon, on enregistre, là, on est le 10 décembre, donc on est quelques jours après Collision et Dynamite. À Collision, quand vous êtes rentré, la réaction, le pop que vous avez eu, explique-nous là, comment ça a été quoi ton sentiment, comment ça a été quoi ton feeling dans le ring?
Ouais, ben, so, like, on sait jamais quoi attendre, you know? Like, are they going to be excited to see us? Or are they going to be like, c'est un match un peu comme par rapport, c'est random un peu, right? I think we'd all agree. So it wasn't an announced match. Sorry, I'm all in English.
That's fine. The stories will be much better. That's fine. Go ahead.
So we didn't know what to expect, but the second the music hit, and they saw our names on the screen, the place just went insane. I've never heard 3,000 people sound louder in my life. You know, and man, it was something. It was special. It was c'était vraiment vraiment spécial pour nous.
C'est bon. Pat et moi, on était là, puis on a eu beaucoup de criticism sur les antipodes la semaine de l'événement, mais tu l'as dit, t'as rarement entendu 3000 personnes going crazy comme ça. Puis c'est pas juste le fait qu'ils going crazy pour toi, mais toute la soirée, la foule chantait, criait, était involved. No matter how many people are there, we get involved.
Les deux soirées, c'était de même. It was just electric.
Backstage, est-ce que les gens venaient te voir et étaient comme, yo, what are they saying now?
So yeah, that did happen a lot, actually. One instance in particular, I remember, if you remember the 12-man tag, well, maybe you don't because c'était comme minuit quand ça
s'est passé. I was gone, brother.
Of course, you were probably in bed for the last 2 hours. but the place, that whoever's left is chanting, Papa Magie, Papa Magie, and Darius Martin, who's on my team, looks at me and goes, what are they chanting? Daddy Magic in English.
I did tweet
in French. Sorry.
I did tweet some of the translation, and on Dynamite. When they chanted "On s'en calisse" to Roderick Strong.
Oh yeah.
And I was like, yeah. Well, literally it means we don't give an F, you know? And yeah. I mean, that tweet was like retweeted and viewed so many times, you know, because people thought it was funny. That's what Montreal is all about, right?
That's great. Ils ont fait la même affaire quand Don Callis est sorti sur Rampage. Puis je m'en dis, qu'est-ce que t'en penses de ça, là, que, like what they're chanting, you know? Like, I was nicer about it than you were, though. They're chanting, we don't care.
T'as-tu le temps de prendre un peu de recul par rapport à ce moment-là? Parce que il me semble qu'il n'y a pas si longtemps, vous étiez ailleurs, vous veniez d'arriver à AEW, on en a parlé à plusieurs reprises, et là, le Centre Bell comme ça, la réaction, c'est-tu un peu comme une consécration pour vous autres? C'est-tu un peu comme, hey, regarde, we made it?
Yeah, it's a good question. On dirait depuis qu'on a commencé à AEW, c'est juste, it's one, what's the word I'm looking for? Like, milestone after another.
Yeah.
And this is almost another milestone for us, you know? It's another check.
Un autre accomplissement.
Like, exactly. That's exactly what it is, you know? And they just keep coming, and I anticipate them to keep coming for us. It's been an awesome ride, honestly.
Tu te rappelles when y'all got fired, puis là, vous êtes venu sur le podcast.
Non, mais... Yeah, you're so blasé about it. You remember when you got fired from your job where you uprooted your wife and everybody to Florida? You left the country to go here for this one specific thing, and you're having a baby in a month, and you got fired, mais... and you're being faced with deportation.
Mais tu sais, mettons... C'est quand même crazy,
yeah,
là. You guys got fired, puis j'ai dit à Pat, the week of, ou les quelques jours après, vous avez sorti vos affaires sur YouTube, puis là, ça a commencé à blow up left and right, puis après ça, bon, toute l'affaire avec Chris Jericho, le podcast, etc., etc. Mais quand tu t'es fait fired, that moment, c'est sûr que tu peux pas me dire, yo, on allait make it. Là. Est-ce que tu t'es dit, faut que je trouve un autre projet? Est-ce que tu t'es dit, faut que je trouve un autre projet? Puis si oui, c'était quoi?
Non, ben la première chose que. La seule chose que je pensais, c'est. How to make keep this baby American. OK? Notre fils va aller être né au mois d'août, puis on était. Yeah. Quand j'ai dit au mois de juin, je pense, c'est ça. So I was like, I gotta find a way to stay here. Just. To make sure this baby's American, give them options, you know what I mean? Whatever happens, happens, but right now, that is the main priority, at least, right? Stacey, my lovely wife, is here with me.
Allô, Stacey. Pour clear up, c'est... Allô, c'est pour avoir la double citoyenneté, right?
Yes, exactly.
Yeah, exactement.
Exactly.
Puis je trouve...
So that was the main concern, and then after that, it was just like, comme t'as dit, les shows de YouTube, comment partir ça, the merchandise, all that stuff, like everybody does when they get let go. There's a whole, like, almost like a checklist of things that you got to do and start contacting indie promotions. And then the big guys, too, you know, TNA, who else, MLW, and then obviously AEW.
J'ai comme trouvé qu'on avait été full circle avec ça, justement, cette histoire-là, parce qu'au Centre Bell, après ton match, t'as été voir Stacy, t'as pris Baby Jack dans tes bras avec ses gros écouteurs. Papa Magie était over, mais papa de Jack avait l'air fier en tabarnouche.
Yeah, c'était même pas, c'était pas comme planifié, you know? It's just something, in the moment, the match ended, puis j'étais chanceux parce que c'était pas... Like, si c'était Dynamite, là, j'aurais pas pu faire
ben
ça,
ben non, parce que t'étais live. Là, t'étais pas live.
Exactly. So I was like, okay, I got time to play with here. I'm gonna have a little fun here. You know, let's share the moment with the family. That's what was so cool about this week for me. J'ai amené mes parents, mes amis de secondaire, Enzo and Johnny, of course. You guys know, and Stacy and my son Jack. Mm-hmm. So to be able to partager ces moments-là avec eux, c'était, I hate saying it again, but vraiment spécial. Because, je pense que c'est ma soeur qui l'a dit, when we did the when I did the commercial with the Canadians mascot, right?
Mm-hmm.
She goes, "It's Stacey and Jack came with me." And she's like, "It's cool that you got to share that with them because normally you're on the road and you vis ces moments là, mais t'es tout seul." And I'm like, "That's a great point because I am alone and the only thing like." I just get, when I land, I get to tell my wife about it. You know what I mean? Mm-hmm. But like, she's not there, you know? So she doesn't feel it. She doesn't share the excitement. Et fier quand même, but c'est pas pareil. So to be able to share that with everybody who supported me and loved me and, you know, picked me up when I was down, it was awesome.
Are you going to frame the picture?
Oh, I'm sure we'll be doing something like that, absolutely.
Yeah, because ça, c'est carte de Noël stuff, là. That's crazy.
We have a pretty good carte de Noël this year. It's real cheesy. You want to get it? We'll show it.
I believe.
Oh, this is a podcast. There's no image.
We're going to see it.
You guys will see it. Sure.
I believe your mom is not following me on Twitter, by the way, ever since this week.
So this is funny, like ma mère, quand j'étais sur les indépendants, right? Yeah. She, I don't want to say she didn't care, but she didn't care, you know what I mean? Well, love you, mom, mais, you know? But when I got to WWE and AEW, all of a sudden, it's like, she's reading the dirt sheet, she knows this guy and that guy, she is up to date, she's telling me the news on what's going on in my industry. C'est malade, là.
That's great.
And now she follows Pat LaPrade.
There you go.
Yeah, right here. Take a look right here if you can.
Wow, this is good.
You can see that.
This is good.
Merry Christmas, everybody.
Est-ce qu'il y a du monde backstage qui a rendu à Collision ou à Dynamite qui ont comme été vous voir, toi puis Jeff, en disant « Vous venez d'ici? Vous êtes de Montréal? Vous êtes du Québec?
» So, no, that didn't happen exactly like that, but that does happen often when they're like, where are you from? You're not from New York. You know, because sometimes I talk with that RDP English accent, you know, the Italian accent a little bit, like I put it on.
They're from
so everybody
kitchen.
Automatically thinks, yeah, exactly. They're like, this guy's from New York City, this idiot. No, from Montreal, Chattagy.
So when you get to do, quand t'as la chance de faire tes promos, là, parce que ce que j'aime avec AEW, c'est que vous avez quand même un terrain de jeu assez large, puis je sais pas comment ça fonctionne pour faire les promos que vous faites. Est-ce que vous allez voir un caméraman qui vous dit « Yo, tape this » ou un producer « Yo, je file la faire une promo » ou les gens sont comme « Yo, après ton match, je vais avoir une promo », etc., etc. Parce que il t'en donne quand même beaucoup, puis every time, it's out of the ballpark.
Merci, thank you. I mean, that's what I do, right? That's like, c'est ça mon, comment on dit en français, like my bread and butter.
Ouais,
you know? That's what they pay me for, really.
C'est ça, ton pain et ton beurre, ouais.
Mon pain puis mon beurre, tu sais, tu comprends? So to answer your question, ça dépend. Like, si c'est sur le Dynamite, Collision, Rampage, c'est un peu plus strict. Like, you'll have a quick 60 seconds, 90 seconds. If there's a lot of people, maybe 2 minutes, you know? But for the most part, t'es pas mal laissé tout seul pour... Like, ils donnent le but du promo.
Yeah.
Like, maybe it's a match, maybe it's a whatever storyline, you know, Ruby Wright and Cool Hand Anger in love for some reason, and you got to talk about it. But other than that, c'est tes propres mots, tu sais, c'est comment tu veux les dire, how you want to pronounce things, the way you want to say it. I always say in, like, let's say I'm teaching promo class or somebody's asking me for advice on their promo, I go, don't worry about what you say, it's how you say it, right? If you go back and you watch Macho Man or whoever, Roddy Piper, geez, this is n'importe quoi, là. Like, vraiment n'importe quoi.
Ah, man, Macho Man is crazy. Ouais.
It's all nonsense, but you believed it. Tu croyais, là. So that's the advice that I try to give people. And if you're talking about promos, like, for the internet, like, I think for the Continental Classic, they're doing a lot of these after the match. Hey, we're catching up with Swerve Strickland, right? So they'll say, okay, you're going to have a promo, I guess, at this point, because it's a thing. And all your words, whatever you're feeling, whatever you want to get across in that moment, it's a promo. It's your time to promote yourself, you know? And anytime I've done anything, like after the Blood and Guts or after, what's the match, Anarchy in the Arena, a couple weeks ago I did one that was pretty popular. That's just, hey, digital. Like, you grab the digital camera guy and you say, let's go film something, you know?
Tu l'as...
I try not to do that too often, though, because I feel like people will get tired of it if it's always the same note, you know?
Tu l'as mentionné, Macho Man, Randy Savage, on entend l'influence de Macho Man dans tes promos. Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a toujours look up to quand t'étais plus jeune? Est-ce que t'as étudié ses promos? Puis c'est quoi tes autres influences au niveau promo?
Ouais, je pense que je viens de les dire, le Macho Man, Roddy Piper, ces deux-là, like, je fall là-dessus. Ouais. Absolutely, I start, like, studied them. I just watched them religiously, yeah. You know? Like, you just go on YouTube and it's just un après l'autre.
C'est quoi ta préférée de Macho Man?
My favorite, off the top of my head, it's hard to say.
Cream of the crop. But, cream of the crop.
Yeah, sure. Yeah, that's the classic one, cream of the crop. But all those market-specific promos that they do, you know?
Yeah.
Like for Philadelphia, for Boston, here, there, you know, with the blue background and the yellow WWE logo, like... I could watch those for hours, man, because they're free. They're saying whatever they want, just craziness, you know? So, and sometimes there's bloopers, it's awesome. Dusty Rhodes, obviously, ça c'est un autre, là, il dit n'importe quoi. Makes no sense. Just listen to the Hard Times promo, like, but you feel what this guy's feeling. You feel it.
Yeah.
So that's all that matters.
When he says,
what about feeling, guys.
When he says, put your hand in front of the TV, I'm like, yeah, I'm going to put it in front of my computer if I have to.
So, like 2005 IWS member Bloodstream Pat, I did that exact, like, that exact bit, the hand, you know? But this was, like, before those DVDs came out and YouTube, so it wasn't, like, as accessible. So, like, I kind of tried to take credit for it for myself.
So, AEW got is 4 years now. Excuse-moi, je back and forth. AEW a 4 ans aujourd'hui, va signer pour ses 5 ans. On a vu une grosse progression à travers les années avec AEW. C'est quoi la chose qui t'impressionne le plus depuis ton arrivée à AEW qui a changé ou qui a évolué?
Comment qu'on a ajouté des shows de lutte, là? Like, quand j'ai signé le contrat avec AEW, we just had Dynamite.
That's true.
Right? C'était la seule émission. And then 2 weeks later, they added Rampage, which I've heard Tony Khan say that's why he hired us, you know, because he needed more wrestlers for the more hours of programming. And then we added Collision, and now, on dirait, tous les mois, on a un autre pay-per-view. So it's crazy. It doesn't stop. And I guess that's it, right? Companies just keep growing and growing and growing. Gotta hire the people to keep it up too.
Puis, mettons votre positionnement dans la, parce que tu sais, mettons là, il y a le angle avec Mr. comme ses cheveux là, Cole Ange avec Ruby. Toi, tu fais du commentary, c'est à Rampage. Tu fais du commentary, je pense à Rampage. On dirait que vous êtes tout le temps là parce que quand ils vous appellent, vous faites la job, mais on dirait qu'ils veulent pas vous mettre dans le title contention où je pense que vous voudriez être, mettons.
Yeah, no, je suis tout à fait d'accord avec toi. I feel like, depuis qu'on est arrivé, on est toujours à télévision, like, quasiment chaque semaine, in a story, doing something, mais c'est jamais... I'm not complaining, please.
No.
I don't want anybody to think I'm complaining. I'm so grateful. I am not complaining. But the story is, it's never... about us necessarily. Mm-hmm. It's always about, you know, whatever else is going on, you know? And that's cool. You need to have those guys too. I would love at some point to have something that is for me, you know? That is going to let me really sink my teeth into it, you know?
On en a parlé dans les entrevues dans les dernières années, Matt. C'est assez incroyable. T'sais, vous êtes arrivé à AEW, travaillé avec Sting, travaillé avec Punk, travaillé avec Jericho. Et là, cette année, ça a continué. Vous avez travaillé avec les Hardys, vous avez travaillé avec les Bucks, vous avez travaillé avec Rob Van Dam. 2024, y a-tu quelqu'un, soit dans le roster actuel ou quelqu'un qui est AEW pour aller chercher, où tu dis, hey, ça serait vraiment, vraiment le fun de travailler avec cette légende-là ou ces légendes-là?
Man, that's hard to say because on a travaillé avec quasiment tout le monde.
C'est fou, hein?
That, right, in AEW?
Omega 2, I think.
Yeah, we worked Omega and Jericho a couple weeks ago. Mm. Oh, j'étais malade, tellement malade, like, that whole day.
Oh, really?
Couldn't believe it.
Like
yeah, the
sick?
Next day, I get home. Yes. The next day I get home, j'ai vomi partout. Puis c'était ma femme qui a tout ramassé. Like, God bless her. We love you, Stacey. I couldn't believe it. This woman's just elbow deep in puke.
what did you have?
I don't know. I don't know.
Bad bug.
Maybe. Yeah, must have been that, you know. Mm. And I started feeling it that afternoon when we wrestled Chris and Kenny. But I just took, like a cold pill or something. Right. So I didn't feel it.
Ouais, c'est pas un match.
And then after the match, like just the adrenaline dump, I was
c'est
done.
C'est pas un match que tu veux annuler, you know.
Right? Exactly. And it's not one where you want to be feeling shitty either. What was the question?
Mais y en a-tu, oh, ouais, c'est ça, exact.
Oh, man.
Darby and Sting.
Yeah, give me a rematch, please. I've been thinking of that too. Like, yeah. I would love a rematch at those
because
guys.
Before retires, yeah.
Ouais, ça bouclerait bien la boucle. Je dis pas le dernier match de Sting, mais pour c'est quand même vous autres qui a accueilli Sting dans le building.
Quasiment, right?
Yeah, fait que ça je trouve que ça fermerait bien la boucle.
Yeah, no, that would be awesome. And même si ça arrive pas là, I'm just so happy that I got to have one of Sting's, I don't know, last 20, 30 matches or whatever it is, just to have one at all. I could have never imagined that was a thing that would have happened. Like how, on what planet was that going to ever happen si tu penses à 2015 or 2016, you know what I mean?
Yeah.
There's just no way. But it did, you know? Very grateful.
Est-ce que tu gardes des memorabilia, tu sais, mettons, des tights ou des trucs de d'autres combats? Ou, je sais qu'au football, c'est vraiment une tradition, swipe the jerseys and stuff like that, mais je sais que dans le monde de la lutte, c'est moins ça, mais est-ce que t'as des elbow pads de quelqu'un ou des trucs comme ça, tu sais?
Man, I hate to disappoint you, I don't. Like not of anybody else's. I have all my Jericho Appreciation Society jackets and all that stuff if I haven't lost them. I've lost a couple of them, like I just fall asleep on the plane and I don't pick it up or something.
That's crazy.
But, but no, not really. No memorabilia, no.
Puis maintenant, c'est quoi ton piece of gear préféré?
Ooh.
And if you don't tell me it's the Backstreet Boys, I'm not going to be happy.
Ooh. It is the Backstreet Boys. It's the Anarchy in the Arena. The white with the white hat. That what? Is just, dude, whenever we got to dress up at the JAS, just, oh, my heart was just full. That's I love it. It's funny though, because like Garcia and like Sammy, they didn't care for it too much. if they're not flipping off the top rope, they're not happy, you know.
Jake Hager.
Hager.
Yeah, je
pas the people. Swagger, Jack Swagger.
Exact.
Quand
Jake Hager faisait son bit sur le chapeau là, à quel point vous deviez vous retenir pour pas rire parce que vous aviez vraiment l'air d'avoir du fun, puis surtout dans ce genre de petit bit là où je sentais qu'il y avait beaucoup de place à improvisation, etc., etc.
It's so stupid. It's so stupid. This hat, but the people love it. So he gets rid of the hat il y a un couple de mois, je pense qu'au mois d'août juillet, right?
Ouais.
On n'a pas vu le chapeau pendant 3-4 mois. And then Chicago before Thanksgiving. In Chicago, so it's like crowds alive, you know what I mean? They're into it. It's like men, like testosterone. And we know we have a spot with the hat coming up, but they haven't seen the hat in 3-4 months, so we don't know how they're going to react. And the second they see Jake, they're like, where's your hat? Where's your hat? and then they switch to, you are hatless. And then Danhausen takes out the hat, and the place just goes insane. It's just
crazy.
Awesome.
It's
just crazy.
Es-tu content? AEW a annoncé une grosse tournée canadienne l'an prochain. Et, entre autres, la ville de Québec, Centre Vidéotron. Il y a des fortes chances qu'après le Centre Bell, vous allez être également sur le show du Centre Vidéotron. Si vous n'êtes pas là, à Riot, you know. Mais,
no, come on. We're going to be there. I will be there no matter what. OK?
Et la dernière fois que tu as travaillé Québec, je me trompe pas, corrige-moi, je me trompe, c'est dans le temps de la NSPW.
Il faut
que ça soit ça. Ou, je me rappelle encore, vous pratiquiez une nouvelle entrée les dernières fois que tu avais travaillé là-bas. Tout le monde regardait Matt puis Jeff être en train de pratiquer avec Enzo, leur gérant, leur nouvelle entrée dans l'après-midi. La musique partait, puis là, ils faisaient leur entrée, puis l'autre, ils recommençaient. Puis tout le monde, c'était comme, ils sont dans un cave, qu'est-ce qu'ils font là? Et la logique de Matt puis Jeff, c'est, ben, pensez-vous, dans la grosse ligue, ils font pas ça? pratiquer les entrées comme ça? Et une des premières choses que vous avez faites à NXT, c'était quoi? Pratiquer vos entrées?
Yeah, oh, yeah, a lot, yeah. I love that story. I love when you tell that story because it's the truth, you know? Tout le monde riait de nous, genre, qu'est-ce qu'ils font, eux autres, là? Tu sais, what were we coming out to? The Tina Turner, Simply the Best, you know? Mm. Puis on avait les beats tout timé, you know, with the chorus and the saxophone, like, poses, and I think there's baby oil and hugs and this and that. It was a whole thing.
A lot of things.
Yeah, it was a lot of fun. But I'm super content pour la vieille capitale, you know. We're coming to Quebec, what is it, March 16th or March 20th?
March 27th.
It's one of those, right? March 27th? Yep.
March 27th.
Oh, boy. I got my dates mixed up. When's Ottawa?
March 16th.
Okay. At least we got that. Yep. So Quebec is like, on dirait, it's always like ignored, right? It's a little bit like just Quebec City pushed on the side when it comes to major touring acts. I think maybe even in music and in any industry, right? And I think it's really awesome that AEW is heading there, and I expect to have a hot crowd.
We will make sure of it.
I'm just gonna put this like down l'univers. I want a nice blue, maybe fleur de lis, Papa Magie shirt. For that show.
That'd be crazy.
À Montréal.
Not des couleurs.
À Montréal, je pense que si vous aviez eu un t-shirt, ça se serait vendu, là.
Oh, yeah. Puis là, je m'en fous, là. Si AEW doesn't want to print it, je vais être dans le parking, là, en train de les vendre.
Hey, Matt, dernière question pour toi. 2024. À quoi tu t'attends pour l'année 2024? Qu'est-ce que tu aimerais faire avec AEW en 2024? C'est-tu les titres par équipe? C'est-tu Wembley Stadium? C'est quoi tes buts avec la compagnie pour 2024?
Yeah, Wembley Stadium would be sweet, you know? That'd be awesome. We had to miss it this year. Je pense comme j'ai dit tout à l'heure, un storyline qui est pour nous ou moi or whatever, however we want to do it, you know what I mean? Just quelque chose que with a little meat, something I could dig my teeth into and really make people feel something. That's a goal of mine. The continuer les commentaires, the commentary. I love color commentary. I love working with that whole crew: Tony Schiavone, Taz, Ian Riccaboni, JR when he's around. You know, I love it. That, I really think that is my future moving forward. You know, as time goes on here. And that's it. Yeah, those are my goals for 2024.
Do you still believe it? Like, tu sais, le petit Matt Lee qui écoutait la lutte, puis là, tu travailles avec Tony Schiavone que tu écoutais à l'époque avec la WCW. That's crazy. That's crazy, right?
Did JR.
I don't.
And JR.
JR, too. He would always pull me aside, give me advice, you know, talking in sound bites or this and that, you know. Always had something to say. But Tony Schiavone, specifically, it's crazy, you know? He's a great guy. He's kind of like, I don't know, the manager maybe of like the commentators, I'd say. And so here's a little story. I guess on Conrad's, what do you call it? Like his podcast, yeah, right? His podcast network. They're celebrating 40 years of Tony Schiavone in wrestling. And I guess he's choosing people that he's close with to do like a little watch along of their favorite Tony Schiavone moment. Mm. And they chose me to do one, and I can't wait to do it.
Oh, no way.
Yeah. That's very crazy. Special. Yeah.
Wow.
Yeah. Little spoiler there.
Yeah. Yeah. Oh, and it's a cool story. You know, that means he likes working with you, I guess. And you know, he likes you as a person too. That's crazy. Wow.
He's the best. Mr. S, he's the best.
Hey, Matt Menard, Papa Magie.
Papa Magie.
Merci beaucoup. Merci beaucoup de donner ton temps. And have a good Chiefs game in an hour. Well, 45 minutes.
30 minutes. 30 minutes.
How about those Chiefs?
Go Chiefs, go. Merci, Matt. Puis on s'en parle.
Merci, les gars.
All right, merci.
Super entrevue. Kev, une autre fois, on a mis en valeur nos Québécois. Je suis bien content de faire ça. Je trouve que c'est une belle tradition de faire un podcast avec des entrevues juste avec nos Québécois. Toujours bien le fun de les mettre de l'avant puis de parler avec eux autres.
Oui, puis n'oubliez pas de vous abonner à notre Keybook. Plus d'entrevues, on a Lou O'Farrell qui est soit qui s'en vient ou qui s'est été posté. Donc ouais. Une autre Québécoise qui a eu une belle année. Puis on a du beau contenu qui s'en vient pour vous dans les prochaines semaines. Donc abonnez-vous à Keybook
pour plein de contenu. À Keybook. C'est déjà tout pour nous en ce qui nous concerne. Au nom de Fred Poirier, celui de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade. Et je vous dis à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.